Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres.
La Fondation Adonai Iri House vous invite à suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
Et le monde veut me crucifier.
Pour soutenir les émissions radiophoniques de la Fondation Adonai Iri House, Bank of Africa Benin, nom du compte, Association Adonai Iri House, Code Banque BJ 061, Code Guichet 01001, numéro du compte 00119 28 95 00 05, Clérib 07, Code Swift Afri BJ BJ XXX.
Mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser.
Chères auditrices, chers auditeurs, que la puissance du Consolateur, l'Esprit de vérité, troisième personne du Conseil Trinitaire soit avec vous. Nous avions vu précédemment que l'Église doit être vue comme un mouvement politique particulier d'influence dans toutes les sphères de la société et qu'elle est appelée à impacter. Je nous ai conviés à redécouvrir toutes les richesses de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui accoucha d'un groupe extraordinaire qui, sans même parler et agir, avait de l'impact et de l'influence sur le plan politique. Bienvenue à notre émission Citoyens du ciel et de la terre de ce jour. Nous continuons par nous attarder sur la mission de l'Église dans la société. L'Église, difficile d'en donner une définition exacte, mais elle existe dans sa variété, dans sa diversité organisationnelle et structurelle. En dépit de tous les défis, le kérim de Jésus-Christ, chef de l'Église, est toujours en cours de réalisation. Je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est cette Église qu'il a aimé et s'est livré pour elle. De 3000 membres au départ, seul Dieu pourrait donner les statistiques de l'Église universelle, invisible aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons tous travailler la main dans la main pour retrouver la pensée de l'Église primitive et l'implémenter aujourd'hui. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, nous rapporte le médecin Luc. Avoir des églises en paix et non des églises conflictuelles qui se divisent pour un oui ou un non doit être notre devise. Et je formule le vœu que chacun d'entre nous, chrétiennes, chrétiens, nous soyons des acteurs de précieux de cette recherche de paix et de développement de nos églises et de nos nations. L'Église contemporaine se doit de tenir compte des avertissements du Seigneur aux sept églises d'Asie rapportées dans le dernier livre de la Bible pour se conformer au fil à plomb divin dans ses pratiques quotidiennes pour être véritablement l'Église dont le Christ est le chef. L'Église ne doit pas oublier son rôle de sel et de lumière dans la société. C'est pourquoi à travers cette émission, je participe à la conscientisation de l'Église d'aujourd'hui en vue de la présence chrétienne dissuasive et persuasive dans la société. En effet, les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons la responsabilité d'élever la voix dans la société, dans la nation, pour rectifier le tir, pour appeler à l'ordre les gouvernants et ceci sans aucune crainte. Il faut donc comprendre qu'en plus de sa mission d'orienter l'âme vers la vie éternelle, en attendant que Jésus-Christ ne vienne chercher l'Église sans tache ni ride pour les noces de l'agneau, ce fut toujours la responsabilité de l'Église d'élargir les horizons et de remettre en question les situations établie. L'Église doit entrer dans l'arène de l'action sociale et politique en vue de sa transformation pour que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'Église et les serviteurs de Dieu ne doivent en aucun cas fermer les yeux sur les injustices, sur tout ce qui suit la théologie du serpent ancien et détruit la dignité de l'être humain créé à l'image de Dieu. Avec King, nous affirmons que nous devons prier sans arrêt pour la justice économique, mais nous devons aussi mettre diligemment mettant en action cette transformation sociale qui assurerait une meilleure répartition des biens à l'intérieur de notre nation et dans les régions sous-développées du monde. Dans les thèses de Pomerol, œuvre de quelques passeurs fidèles qui s'étaient réunis les 16 et 17 septembre 1941 en pleine Deuxième Guerre mondiale et qui ont réfléchi dans ce contexte du conflit mondial, ils ont réfléchi sur ce que l'Église doit dire au monde. Il est mentionné dans les thèses de Pomerol ce qui suit. Il appartient à l'Église en tant que communauté de porter un jugement sur la situation concrète de l'État ou de la nation chaque fois que les commandements de Dieu qui sont le fondement de toute vie en commun sont en cause. En prononçant ce jugement, l'Église n'oublie pas qu'elle est elle-même sous le commandement de Dieu. Elle se repent de ses trahisons et de ses silences. Au milieu du XXe siècle, l'Église de Corée du Sud a laissé à l'histoire de l'Église un modèle d'impact et de transformation de la société. En effet, avec René Monod, nous sommes informés sur le fait que pendant les années 1945 à 1950, où les communistes opprimaient le peuple et le pays nord-coréen, la Corée connut deux bienfaits. Tout d'abord, l'afflux des réfugiés nord-coréens qui constituait pour les chrétiens du Sud un enrichissement spirituel. Le deuxième facteur profitable à la vie spirituelle de ces communautés chrétiennes fut la personnalité du premier président de la République de la Corée du Sud, Syngman Rhee. Le président Syngman Rhee a mis en pratique ses convictions chrétiennes. Et ceci même dans l'exercice de ses hautes fonctions. La plupart des ministères importants furent confiés à des fidèles chrétiens. C'est ainsi que le général en chef de son grand état-major fut un chrétien assidu au culte dominical et à côté de son activité principale, ce général assuma la direction d'un orphelinat chrétien. Un grand nombre de pasteurs devint gouverneur de district. Partout dans le pays, on remarqua l'influence du président qui jamais ne s'enorgueillit et resta jusqu'à sa mort un chrétien humble et fidèle. Et ceci à la gloire de Dieu. Il faut noter en dépit de quelques actions isolées le silence de l'Église sur les événements de la société. Par exemple, pendant le moment où Adolf Hitler et ses associés ont lancé l'Holocauste, le silence et l'inaction de la plupart des chrétiens ont été significatifs. Et on doit se poser la question de savoir pourquoi nous restons encore silencieux sur les mots qui minent la société aujourd'hui dans notre temps contemporain. Force est donné de remarquer que c'est une fiction de penser qu'on peut échapper à la politique. L'attitude de l'Église catholique et de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale sont encore aujourd'hui des sujets de recherche brûlants. Il est vrai que l'Église, paralysée par sa terreur du communisme, ne s'est pas montrée à la hauteur de la situation en entretenant une collaboration avec les nazis et les fascistes. Les églises protestantes n'ont pas fait mieux. Le Conseil provisoire des églises évangéliques d'Allemagne a d'ailleurs publié en 1945 une déclaration de repentir qui est appelée la Confession des péchés de Stuttgart. Et dans cette déclaration, c'est par rapport au manque de résistance des églises face au nazisme. Cependant, on aurait tort de faire des généralisations hâtives. Dans les deux camps, des chrétiens se sont levés pour agir, pour lutter spirituellement contre le totalitarisme et nombreux sont ceux qui ont laissé leur vie dans ce combat, comme le célèbre théologien protestant Dietrich Bonhoeffer nous signale Patricia Briel. Justement, parlant de Dietrich Bonhoeffer, il est théologien protestant, pasteur luthérien allemand anti-nazi. Dietrich Bonhoeffer, dans cette Allemagne nazie, fut arrêté en avril 1943 et emprisonné à Berlin à cause de ses activités politiques. Bonhoeffer a payé de sa vie son opposition à Adolf Hitler. Et ceci le lundi 9 avril 1945, où il a été pendu. Cela nous interpelle, chrétiens d'aujourd'hui, à nous lever et à suivre l'exemple de cet théologien pasteur allemand anti-nazi Dietrich Bonhoeffer et Martin Niemöller pour dénoncer le mal dans notre société, interpeller la société à revenir à l'Éternel, à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, à marcher dans les voies de Dieu, à défendre la justice, à lutter contre l'injustice et tous les maux qui détruisent la société et la dignité humaine. Dans ce même 20e siècle, il faut signaler que le père de la théologie de l'espérance, Jürgen Moltmann, il s'est engagé dans le mouvement de la nouvelle théologie théologie politique, laquelle constitue à ses yeux une suite logique de sa théologie de l'espérance. En effet, l'engagement politique apparaît comme déterminant parce qu'en cette fin du XXe siècle, plus que jamais, la politique conditionne le destin des hommes. La théologie politique a pour objet de manifester la liberté chrétienne dans le domaine de la raison politique et dans les conflits de notre société, de mettre à nu toutes les oppressions. Elle doit entrer au service de la liberté et du bonheur de tous. Et selon Mottman, celui qui croit à la résurrection des morts se doit de lutter contre les puissances de la mort qui œuvrent ici-bas, venir en aide aux pauvres, aux dévérités, aux malades. Une théologie politique a son point de départ dans la foi qui est opérante dans l'amour et que Paul rappelle en Galates chapitre 5 au verset 6. C'est pourquoi dans la décennie des années 1970, Mottman apporte son soutien aux différentes théologies politiques émergentes, la théologie de la révolution, de la libération, théologie noire, théologie féministe et autres. En 1974, au point fin de la déclaration du mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde, une rencontre organisée sous le leadership éclairé des regrettés Billy Graham et John Stott, la fin a été mise sur la responsabilité sociopolitique du chrétien et de l'Église dans la société. En effet, il est déclaré « Nous affirmons que Dieu est à la fois le Créateur et le Juge de tous les hommes. Nous ne devions par conséquent désirer comme lui que la justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient et qu'ils soient libérés de toutes sortes d'oppressions. L'homme étant chrétien, à l'image de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion ou la couleur de sa peau, sa culture, sa classe sociale, son sexe ou son âge. C'est pourquoi chaque être humain devrait être respecté, servi et non exploité. Là aussi, nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une l'autre. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'action sociale n'est pas évangélisation et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le message du salut implique aussi un message de jugement sur toute forme d'aliénation, d'oppression et de discrimination. Nous ne devons donc pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice où qu'il soit. Lorsque les hommes acceptent Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son royaume et ils doivent rechercher non seulement à refléter sa justice, mais encore à la répandre dans un monde injuste. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon de répondre à nos responsabilités personnelles ou sociales. La foi sans les œuvres est morte. Telle est la déclaration de Lausanne 74. C'est justement à cette tâche de transformation, d'interpellation de la société que la Fondation Adonaïre s'attelle dans ses différentes activités, dont cette émission radiophonique. C'est pourquoi nous vous demandons encore aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ pour appartenir à son Église et poser par la puissance du Saint-Esprit de bons actes qui glorifient son nom dans la société en vue du développement de nos nations. Que la puissance du Consolateur, l'Esprit de vérité, troisième personne du Conseil Trinitaire soit avec vous. Nous vous remercions pour votre écoute et à la prochaine si Jésus-Christ ne revenait pas.
Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres.
Vous venez de suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
M'enlacer.
Pour tout renseignement, Fondation Adonaï Iré House 01 BP 27 24 Cotonou Bénin. Numéro WhatsApp 00 229 97 11 94 77. Email info@adonaire.org.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.